1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017, vivre la fraternité.
Nous vous parlons beaucoup et nous le ferons de plus en plus tout au long de cette année du 500e anniversaire de l'affichage des thèses de Martin Luther. De nombreuses manifestations sont prévues, naturellement en Allemagne, mais aussi en France, en Suède, à Madagascar, et de fait un peu partout dans le monde chrétien. Avec Éric de Nimal, nous revenons sur la vie de ce réformateur qui a bouleversé son siècle et l'Église tout entière. Éric de Nimal est journaliste, auteur de nombreux livres, dont la fameuse Bible pour les nuls, mais aussi d'un ouvrage sur Calvin et d'un autre sur la Saint-Barthélemy. C'est dire que l'histoire du protestantisme le passionne. D'ailleurs, il a aussi écrit « Le protestantisme pour les nuls ». Avec lui, nous faisons plusieurs pas en arrière pour nous retrouver en 1483.
Alors c'est en effet en 1483, le 10 novembre exactement, que dans une toute petite ville d'Allemagne, dans la Thuringe, va naître ce garçon. Il sera baptisé dès le lendemain et il recevra le nom du saint sous lequel on le place, Martin. Son père, Jean Luther, travaille dans les mines de cuivre de la région. Martin racontera son enfance en se souvenant « Mes parents étaient très pauvres. Ils travaillaient jusqu'au sang afin de pouvoir élever leurs enfants. Ma mère allait en forêt pour chercher du bois et le rapporter sur son dos. » Et puis dans ses souvenirs, Martin Luther dit que ses parents, s'ils étaient aimants, étaient aussi très sévères et même rudes. Les corrections pouvaient pleuvoir en même temps que les coups. « Mes parents, dit-il, m'ont traité durement, ce qui me rendit craintif. Un jour, pour une noisette, ma mère me châtia si fort que mon sang coula. Ils croyaient faire ainsi leur devoir de parents. »
Autre temps, autre mœurs, corriger aujourd'hui un enfant en lui donnant une fessée fait naître un débat européen.
Oui, tout à fait. Et a priori, il n'y a pas que les parents qui étaient sévères avec leurs enfants en ce temps-là. Luther se souvient qu'à l'époque aussi, les maîtres pouvaient être extrêmement sévères puisqu'ils donnaient des coups de verge. Et sans doute que le petit Martin n'était pas toujours très attentif parce qu'il témoigne avoir été battu à 15 reprises le même jour parce qu'il ne savait pas très bien sa leçon. À noter que dans les biographies de Calvin et de Rabelais au même siècle, mais en France, le climat était tout à fait identique. Les maîtres d'école pouvaient être des tyrans. Difficile d'aimer l'étude dans ces conditions. Lorsqu'il a 14 ans, Jean Luther, qui a remarqué les facilités et l'intelligence de son fils Martin, l'envoie étudier à Magdebourg et puis ensuite à Eisenach.
Même si la famille Luther était modeste, elle peut envoyer le fiston poursuivre ses études au-delà de l'école locale.
Et oui, en fait, Martin Luther raconte cette époque et donne quelques détails. « Nous quêtions aux portes des maisons, mes camarades étudiants et moi, afin d'avoir quelque chose à manger. Un jour, alors que nous étions dans la période de Noël, nous parcourions les villages en chantant les cantiques sur l'enfant de Bethléem. Nous nous arrêtâmes devant une ferme isolée et le paysan, nous entendant chanter, sortit de sa maison en criant d'une voix forte « Où êtes-vous, garçon ?» Nous nous sauvâmes épouvantés. Nous n'avions aucun motif d'avoir peur car le paysan nous apportait à manger. Mais les menaces et les mauvais traitements étaient si fréquents que nous étions facilement apeurés. À la fin, cependant, ce brave homme nous offrit les saucisses qu'il nous destinait. Cela dit, un jour, Martin Luther est remarqué comme belle voix et excellent chanteur par une femme très riche et généreuse qui le présente à son mari. Et finalement, le jeune étudiant est hébergé dans la maison de ce couple aisé et influent. Sa vie devient nettement plus facile dès ce jour-là. Et pendant 4 ans, Martin poursuit avec succès ses études à Eisenach.
Dans le domaine de la foi, qu'en est-il ?
Eh bien, Martin Luther a grandi dans le respect de Dieu à l'ombre imposante de l'Église. Il se représentait Dieu comme une majesté inabordable et dont la puissance pouvait être terrifiante. Sa perception du Christ n'était pas meilleure. Il voyait en lui un juge sévère qui ne se montrait clément que par l'intermédiaire de la Vierge Marie et des saints dont le culte est naturellement très important en ce temps-là. Chez les Luther, on vénérait Anne, la mère de Marie selon la tradition, et patronne des mineurs. Est-ce à cause de la crainte de ses parents et celle de toujours devoir les satisfaire? Est-ce à cause des prédications entendues? Quoi qu'il en soit, Martin a tendance à douter de l'amour de Dieu et il multiplie les confessions, les contritions, en espérant recevoir les faveurs bienveillantes de son Dieu.
En 1501, il a 18 ans et il va dans la ville universitaire d'Erfurt.
Alors tout va bien pour lui. La situation financière de son père est nettement améliorée. Martin peut bénéficier de cela pour aller plus loin effectivement dans ses études. Il est brillant et dès 1502, il est diplômé. Cependant, le jeune homme est souvent inquiet, il a peur de la mort et lorsqu'un jour il se blesse avec sa propre épée d'étudiant, il pense mourir tellement il saigne. Et un autre jour, il apprend la mort brutale d'un de ses amis qui a le même âge que lui. Et cette nouvelle le panique littéralement, il s'abîme dans une introspection mortifère et il crie, il hurle. Et si c'était moi qui étais mort, qu'en serait-il de moi? Où passerais-je l'éternité? Et cette question l'a taraudé longtemps.
On a l'impression d'un jeune homme qui craint toujours que le ciel lui tombe sur la tête. Comment expliquer une nature si inquiète et une position si inconfortable?
Il faudrait sans doute se lancer dans une étude psychologique du personnage. Un père et une mère sévères, des maîtres sévères, une vision sévère du Très-Haut, tout est sévérité finalement. Sans oublier la rudesse du monde et des menaces permanentes, la mort rôde toujours. D'ailleurs, deux autres enfants de Jean Luther vont mourir de maladie avant de devenir adultes. Quant à l'Église, elle se présente comme la porte du ciel, hors d'elle, pas de salut. D'où les exercices de piété que s'inflige Martin qui cherche les bonnes grâces de Dieu. Il voudrait pouvoir se présenter devant lui avec une conscience pure, mais sa conscience le condamne sans cesse. Martin tente bien d'influencer et d'infléchir le Seigneur en s'abîmant dans des dévotions et dans des privations pour mériter le pardon de Dieu, que l'Église a tendance à monnayer, mais il ne trouve vraiment jamais la paix.
Nous retrouvons donc Martin Luther à l'université.
Là, il se plonge dans les études et à la bibliothèque de l'université, il découvre une Bible qu'il se met à lire avec curiosité. C'est, nous l'avons déjà dit, un garçon intelligent et il aime les livres. De plus, sa soif de sainteté s'accentue encore et encore. Pourtant, il a le sentiment que plus il se purifie, plus il est souillé.
Que se passe-t-il donc pour que de l'université, on le retrouve brusquement dans un couvent de frères Augustins ?
Alors il faut se situer en juin 1505, il était alors allé voir ses parents et il revient à l'université. Il est seul sur la route quand il est surpris par un orage d'une rare violence. La pluie, les éclairs, le tonnerre, il a vraiment l'impression de sentir la colère de Dieu. La foudre tombe tout près de lui et il pense sa dernière heure arriver. Alors il fait une prière, ou plutôt il hurle une prière au secours. « Sainte Anne, crie-t-il, sauve-moi !»
Sainte Anne, la patronne des mineurs que la famille Luther honore toujours avec ferveur.
Exactement, et l'orage s'éloigne. Quand il arrive enfin à Erfurt, il est trempé et troublé. Pour lui, c'est certain, l'orage est un avertissement de Dieu et sa prière a été entendue. Maintenant, il doit honorer son vœu. Et quand il en parle autour de lui, ses amis tentent de lui faire changer d'avis. Il est cependant déterminé. Lorsqu'il évoque la chose avec ses parents, ces derniers sont consternés, incompréhension, stupeur. Incompréhension et stupeur chez les Luther. On espérait tellement de ce garçon brillant. On le voyait avocat ou juge, mais pas prêtre. Or, Martin est déjà un homme de parole et il sait qu'on ne se moque pas de Dieu. Une promesse est une promesse. De plus, il a si souvent entendu les religieux dire que la vie monastique était très en faveur chez Dieu qu'il espère trouver sa paix et la sérénité dans un couvent. Pourtant, plus tard, lorsqu'il se souviendra de cette époque, il écrira « Ce n'est pas volontiers que je suis devenu moine. Enveloppé des terreurs de la mort, j'ai fait un vœu forcé. J'abandonnais le monde et j'entrais au couvent désespérant de moi-même. »
On est en face d'un homme tourmenté qui va au couvent presque par dépit pour honorer sa parole et qui espère trouver chez les frères Augustins ce qu'il cherche depuis des années. Est-ce qu'il trouvera enfin ?
D'une certaine façon, oui. C'est au couvent qu'il va servir et étudier. Et dans ce cheminement, il va cerner l'essentiel pour sa vie. Mais ce sera progressif. En tout cas, il est vite remarqué par le supérieur du couvent qui voit en lui un être brillant et prometteur. Mais le novice est perpétuellement inquiet. Dans un premier temps, Martin doit se plier à la règle du couvent et se remettre à mendier dans la rue, comme à l'époque où il était tout jeune étudiant. Mais il accepte finalement cette situation humiliante parce qu'il a le sentiment de gagner ainsi le salut, son salut, et de satisfaire un peu la justice de Dieu. Au bout d'un an, Martin est fait moine, mais il n'est toujours pas heureux. Il observe toutes les règles monastiques. Il jeûne, il s'inflige des privations et même des séances de flagellation. Il s'épuise dans des veilles sans fin et son âme n'est pas apaisée pour autant. Dans ses écrits, il parle de cette époque et il écrit « J'étais l'homme le plus misérable de la terre. Ce n'était jour et nuit que cris et désespoir et nul n'y pouvait rien. Si jamais moine avait pu gagner le ciel par ses moineries, certes j'y serais entré. C'est ce dont peuvent rendre témoignage tous les religieux qui m'ont connu. Si cela eût été possible et si cela avait été plus longtemps, je me serais martyrisé jusqu'à la mort à force de macération. Entouré de ténèbres, je ne trouvais la paix nulle part. »
On a l'impression que l'homme tourne en rond tout en s'enfonçant dans une piété mortifère. Il cherche désespérément à approcher un Dieu qui le terrifie. C'est paradoxal et invivable.
C'est une période de vie très douloureuse pour le jeune Martin Luther qui souhaite toujours faire mieux et ne trouve jamais d'issue à ses angoisses. Un jour, le vicaire général de l'ordre des Augustins, en Allemagne, un certain Johann von Staupitz, visite le couvent d'Erfurt. C'est un brave homme, en même temps qu'un théologien éclairé. Il a une compréhension des évangiles qui l'oblige à se démarquer de certaines positions officielles de l'Église, mais c'est aussi un homme de conciliation qui ne cherche pas à entrer dans des luttes internes. Il se contente d'imprimer une certaine foi dans ses couvents. À Erfurt, il remarque l'attitude triste de Martin Luther et il a avec lui un long entretien. Il essaie de calmer les craintes du jeune moine, lui parle du pardon gratuit, de la foi en Jésus, de l'amour du Père. Ses paroles consolent quelque peu Martin, mais le jeune moine ne parle que de son état de pécheur et du jugement qu'il redoute. Staupitz lui fait alors un cadeau inestimable, il lui offre une Bible. Cela semble étonnant vu d'ici, mais la Bible est encore un livre rare et très cher. Quand il y en a une dans une église, elle est attachée avec des chaînes pour que personne ne puisse la voler. Il semble bien qu'il y en avait une au moins dans le couvent, mais elle ne pouvait sortir de la bibliothèque et peu de moines se penchaient dessus. En tout cas, le geste de Staupitz est finalement celui qui va entraîner toute la réforme de l'église. Martin a tout loisir de se plonger dans la lecture de cette Bible personnelle et c'est ainsi qu'il va commencer à découvrir dans le texte des choses dont il n'entendait pas vraiment parler. Au bout de 3 ans, Martin Luther est ordonné prêtre, sa nouvelle tâche lui fait peur, mais il commence à sortir de son marasme permanent. Il a lu des textes qu'il médite des jours et des jours pour en comprendre toute la force. Par exemple, « Je ne prends pas plaisir à la mort des méchants, dit l'Éternel, mais à ce que les méchants se détournent de sa voie et qu'ils vivent. »
Il a fallu attendre 3 ans pour que le jeune homme, devenu prêtre, connaisse enfin un peu la paix qui découle de la foi.
Martin Luther le dit lui-même, « Bien que ma vie eût été sans tache, je me sentais un grand pécheur devant Dieu. J'étais troublé dans ma conscience et nuit et jour, je méditais ce passage de saint Paul, « Le juste vivra par la foi ». À la fin, je compris que la justice dont parle l'Évangile est la justice par laquelle Dieu, dans sa grâce, nous justifie. Aussitôt, je me sentis renaître à une vie nouvelle.
Cette vie nouvelle, nous en reparlerons dans notre prochaine émission consacrée à la vie et à l'œuvre de Martin Luther. Merci à Éric Denimal et à bientôt pour la suite de cette biographie qui sera développée en 4 épisodes.
1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017. Vivre la fraternité.